Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée mardi 30 novembre, notamment par les activités du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Soudan, en Libye et au Niger, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Dans le cadre du traditionnel échange de délégations pour les fêtes respectives des saints patrons, le 29 juin à Rome pour la célébration des saints Pierre et Paul et le 30 novembre à Istanbul pour la célébration de saint André, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, a conduit la délégation du Saint-Siège pour la fête du patriarcat œcuménique. La délégation du Saint-Siège a participé à la divine liturgie solennelle présidée par le patriarche œcuménique Bartholomée dans l'église patriarcale de Saint-Georges Alphanar. Le cardinal Koch a remis au patriarche œcuménique un message autographié du Saint-Père qu'il a lu publiquement à la fin de la divine liturgie. Dans son message, François a exhorté celui qui l'appelle son frère à l'unité dans la foi en Jésus-Christ et à chercher avec détermination à rendre visible notre communion. Au cours du mois de décembre, le pape nous invite à prier pour les catéchistes appelés à annoncer la parole de Dieu afin qu'ils en soient les témoins avec courage et créativité dans la puissance de l'Esprit-Saint. Au chapitre des nominations, mardi, le Saint-Père a nommé observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, Monseigneur Eric Sovigidi, conseiller de l'Annonciature, qui travaillait à la section des relations avec les États dans la secrétaire d'État. Le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie lance la campagne I'm Church. Dans son message aux personnes porteuses de handicap, à l'occasion de la journée internationale culturelle est consacrée, le pape écrivait « Le baptême fait de chacun de nous un membre à part entière de la communauté ecclésiale et donne à chacun, sans exclusion ni discrimination, la possibilité de s'exclamer « Je suis Église ». En effet, l'Église est votre maison. Tous ensemble, nous sommes l'Église parce que Jésus a choisi d'être notre ami. » En écho à ces paroles, le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie lance la campagne I'm Church, c'est-à-dire je suis Église, à partir du 6 décembre. Dans ce cadre, des vidéos dans lesquelles des personnes porteuses de handicap provenant des différentes parties du monde racontent leur expérience de foi seront disponibles sur les chaînes YouTube de Vatican News et du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie chaque semaine. Chaque vidéo vise à souligner la contribution que les personnes porteuses de handicap apportent quotidiennement à la communauté ecclésiale. Rendons-nous au Burkina Faso pour évoquer avec notre correspondant local la célébration des 25 ans d'épiscopat du cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou et président du Symposium des conférences d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, en sigle.
Pour ses 25 ans d'épiscopat, le cardinal Philippe Ouédraogo a présidé une messe dimanche 28 novembre 2021 en sa cathédrale à Ouagadougou, entourée de ses pères, de nombreux prêtres et d'une foule imposante de fidèles. À l'occasion, il a reçu du pape François ainsi que du cardinal préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et du cardinal Robert Sara des messages de félicitations lus par le nonce apostolique au Burkina en début de la célébration. De l'homélie des circonstances prononcées par Mgr Joachim Ouédraogo, évêque de Kudugu, ainsi que du message du Symposium des conférences d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, qu'a lu son secrétaire général, apparaît ainsi le portrait du cardinal.
Au service de l'Église famille de Dieu depuis 48 ans au Burkina Faso, sur tout le continent africain et au-delà, vous vous êtes révélé comme un serviteur très humble, désintéressé, dévoué, pieux, et digne de Dieu et de son Église.
ce qui confirme bien le mot de remerciement de son éminence.
Notre jubilé d'argent est célébré dans un contexte sécuritaire, sanitaire et sociopolitique préoccupant. C'est pour cela que l'accent est mis sur la prière, la sobriété et l'attention au monde de la souffrance, symbolisée par l'adoration eucharistique du jeudi soir, la célébration eucharistique avec les malades et les détenus, et la quête de la présente messe au profit des veuves et des orphelins.
Paul Daouagadougou pour Radio Vatican.
L'aumônerie militaire catholique de Côte d'Ivoire a procédé dimanche 28 novembre à sa rentrée pastorale 2021-2022. C'était au cours d'une messe présidée par Mgr Ignace Bessy Dogbo, président de la conférence épiscopale à la paroisse Notre-Dame de la Garde de Yamoussoukro. L'archevêque de Korogo a invité les militaires et paramilitaires catholiques à être sels de la terre et lumière du monde dans leurs différents milieux de vie. Reportage.
Venus de tous les diocèses du pays, les militaires et paramilitaires catholiques ivoiriens ont ouvert dans la joie leur année pastorale autour du thème « Sous la mouvance de l'Esprit Saint, soyons sels de la terre et lumière du monde ». Mgr Ignace Bessy Dogbo, président de la conférence épiscopale lors de son homélie, les a appelés à le rendre visible dans leur milieu de vie.
Que véritablement vous soyez la lumière du monde et le sel de la terre. Dans votre milieu d'abord, votre milieu difficile, mais c'est là que vous devez rendre témoignage que vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Ce thème ne doit pas vous isoler par rapport à la vie de l'Église en Côte d'Ivoire et par rapport à la vie de l'Église universelle.
Cette messe a été l'occasion pour le nouvel aumônier national catholique d'être investi dans ses nouvelles charges et envoyé en mission. Le père Norbert Koné voudrait compter sur l'aide de tous pour réussir sa mission.
C'est un service auprès des armées et je compte sur chacun des membres de l'aumônerie et surtout sur les aumôniers pour m'accompagner dans cette mission que les évêques ont bien voulu nous accorder.
Redynamiser l'aumônerie militaire catholique, une tâche ardue, mais pas impossible pour le premier vice-président national, le commandant des douanes ivoiriennes, Guy Patrice Nangui, qui entend faire de cela son cheval de bataille. Une grande sensibilisation auprès des grands commandements, une tournée dans les diocèses aussi tracer les sillons de l'autonomie financière de cette aumônerie consisteront la trame des fonds de sa mission. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Congo-Brazzaville, depuis le dimanche 28 novembre, les évêques font leur retraite spirituelle de l'Avent. Notre correspondant local nous en parle.
Durant ces 7 jours des prières et des réflexions, les évêques du Congo seront à l'écoute du prédicateur venu de la République démocratique du Congo en la personne de Mgr José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa. Mgr Moko.
C'est une grande joie pour moi et je demande à ce que tous les chrétiens du Congo-Brazzaville qu'ils puissent prier pour leurs pasteurs, pour leurs évêques. Les papes d'ailleurs souvent, à chaque occasion, demandent à ce qu'on puisse prier pour lui. Nous avons tous besoin des prières des uns et des autres. Pour la retraite annuelle, mon thème que je propose va tourner autour de l'évangile selon saint Matthieu. Et je lance vraiment un appel pour que les Congolais et les Congolaises, mais aussi tous les auditeurs et auditrices, qu'ils puissent penser dans leurs prières aux évêques du Congo-Brazzaville.
La messe d'action des grâces à l'issue de la retraite spirituelle annuelle de la conférence épiscopale du Congo aura lieu le dimanche 5 décembre prochain à la paroisse Saint-Esprit d'Impaka. Séverin Moussavo, Pointe-Noire, pour Radio Vatican.
Refermons cette page de l'actualité de l'Église par le Togo, où notre correspondant nous parle des différentes activités spirituelles organisées dans divers diocèses dans le cadre de la préparation aux festivités de Noël.
Récollection des ouvriers de l'Évangile à Sokodé du jeudi 25 au samedi 27 novembre. Récollection et formation permanente de tous les prêtres dans le diocèse de Dapaon le mercredi 24 et le jeudi 25 novembre. Temps de recueillement dans bien d'autres diocèses du pays pour préparer la venue du Seigneur. Cette 34e semaine du temps ordinaire, dernière de l'année liturgique, a été un temps fort de renouvellement intérieur pour les prêtres afin de mieux se disposer à aider le peuple de Dieu dans sa marche vers Noël. Il nous faut nous préparer, il nous faut rester éveillés pour que sa venue ne nous échappe pas. a précisé le père Gabriel Nfongbe, formateur au grand séminaire philosophique Benoît XVI à Kikao dans le diocèse de Kara et prédicateur de la récollection de Sokodé. Père Gabriel.
Nous avons médité des passages bibliques et des textes de nos pères dans la foi qui nous ont aidés à comprendre combien il est important de faire cette préparation en vue d'un accueil profond du Seigneur dans nos vies. Et cela n'est pas réservé seulement aux consacrés, aux prêtres et aux religieux, mais à tous les fidèles, à tous les baptisés, à préparer leur cœur comme la Vierge Marie afin de recevoir Jésus dans leur vie.
Outre la récollection spirituelle, la formation permanente de tout le presbytérium à Dapan a porté sur la nouvelle traduction du missel romain. Gustave Wam, Dapan pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les forces de sécurité soudanaises ont tiré mardi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui défilent à Khartoum pour un transfert du pouvoir aux civils. Ces manifestants convergent vers le palais présidentiel, l'ancien quartier général du dirigeant Omar El-Béchir, renversé par l'armée sous la pression d'une révolte populaire en 2019 et depuis devenu siège des autorités de transition chapeautées par le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch du 25 novembre. Depuis, de nombreuses organisations de la société civile, des ministres évincés par le putsch et de nombreux manifestants ne cessent de dénoncer l'accord du 21 novembre vu par la communauté internationale comme un premier pas vers le retour à la démocratie. De nouveau mardi à Khartoum, des milliers de manifestants scandaient « pas de partenariat, pas de négociation » ou criaient qu'ils voulaient que les militaires rentrent dans leurs casernes. La junte guinéenne a annoncé lundi le transfert de l'ancien président Alpha Condé, renversé le 5 septembre par les militaires et détenu au secret depuis chez son épouse dans la banlieue de Conakry. M. Condé, 83 ans, à la tête du pays pendant près de 11 ans, réside désormais au domicile de son épouse, Adja Djene Kaba Condé, à Dixin, a dit la junte dans un communiqué lu à la télévision nationale. La libération de M. Condé fait partie des exigences de la communauté des États ouest-africains CDAO avec la tenue d'élections dans un délai de 6 mois. La CDAO a suspendu la Guinée de ses instances et sanctionné individuellement les membres de la junte. Deux employés d'une branche locale du groupe italien Eni et un agent de sécurité ont été tués dans une attaque dans le delta du Niger, le cœur de l'exploitation pétrolière du Nigeria. Selon Ogbere Solomon, porte-parole local du corps nigérian de défense et de sécurité civile, des hommes armés ont tué dimanche 2 employés de la Nigerian Agip Oil Company, la branche locale du groupe italien Eni, et un fonctionnaire de ce service.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le gouvernement libyen et l'ONU ont réitéré lundi leurs inquiétudes après de nouveaux incidents survenus devant le tribunal de Séba, empêchant Seif al-Islam Kadhafi de faire appel du rejet de sa candidature à la présidentielle. Dans un communiqué diffusé tard lundi, le gouvernement intérimaire a déclaré suivre avec une grande inquiétude les tensions aux abords du tribunal de Séba qui menacent la légitimité de l'institution judiciaire. La haute commission électorale avait annoncé la semaine dernière l'exclusion de 25 candidats pour non-conformité aux dispositions de la loi électorale. Parmi eux, Seif al-Islam Kadhafi, condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie. Un des Nigériens blessé dans les heurts à Téra, dans l'ouest du Niger, sur la route du convoi militaire français se rendant à Gao au Mali, est décédé lundi à Niamey où il était hospitalisé, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur sortant Al-Kash Alada. Un convoi militaire français se rendant à Gao au Mali, déjà bloqué plusieurs jours par des manifestations au Burkina Faso, avait de nouveau été pris à partie samedi à Terra dans l'ouest nigérien, déclenchant des heurts. Un ministre en fonction et ex-chef rebelle en Centrafrique, accusé de crimes de guerre et contre l'humanité, incarcéré quelques jours avant d'être exfiltré de sa prison par des gendarmes, a reçu l'ordre national du mérite par le président de la République, selon un décret lu lundi à la radio nationale. Bouba Ali Hassan, 36 ans, ministre de l'élevage et de la santé animale, ancien conseiller de l'actuel président Faustin Archange Touadéra, avait été arrêté le 19 novembre à son ministère. Sur ordre de la Cour pénale spéciale, il a été exfiltré de prison quelques jours plus tard.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur l'économie avec Françoise Niamien.
Notre magazine sur l'économie porte sur le forum sur l'investissement en Afrique 2021. Les journées du marché de l'édition 2021 du Forum sur l'investissement en Afrique, l'une des initiatives phares de la Banque africaine de développement BAD, initialement prévue du 1er au 3 décembre à Abidjan, la capitale ivoirienne, a été annulée en raison d'inquiétudes accrues dues à la découverte du variant Covid Omicron en Afrique du Sud. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, étaient attendus. Les journées du marché de l'édition 2021 du Forum sur l'investissement en Afrique devraient attirer des milliards de dollars d'investissement pour des projets de développement stratégique sur le continent. Le Forum annuel est devenu un cadre privilégié au sein duquel la banque réussit à attirer des investissements essentiels pour répondre aux besoins du continent africain, notamment en matière d'infrastructures, d'agriculture et de systèmes de santé, en particulier au moment où l'Afrique tente de se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Le succès croissant du Forum sur l'investissement en Afrique va dans le sens de l'exhortation faite aux investisseurs par le président de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, qui a déclaré que l'Afrique devrait être considérée aujourd'hui comme la frontière mondiale de l'investissement. L'édition 2021 devrait avoir pour toile de fond la persistance de la pandémie ainsi que les négociations sur le climat récemment conclues à la COP26 à Glasgow. Ces deux événements ont souligné l'urgence de transformer les défis de l'Afrique en opportunités d'investissement. En outre, un consensus croissant se dégage autour de l'idée que le secteur privé sera indispensable pour donner l'ampleur et la rapidité nécessaires à l'élimination urgente des goulets d'étranglement dans de nombreux secteurs. Les journées du marché 2021 devraient comprendre des sessions dans le style d'un conseil d'administration unique en leur genre, au cours desquelles des développeurs de projets et des investisseurs, y compris des fonds de pension, des fonds souverains et des sociétés de capital investissement, examineraient des projets, notamment dans les secteurs de soins de santé, de l'énergie et du climat, de l'agroalimentaire, des technologies de l'information et de la communication et des télécommunications. L'équipe du Forum sur l'investissement en Afrique de la Banque africaine de développement avait donné un aperçu de plusieurs transactions potentielles lors de tables rondes d'investisseurs organisées virtuellement en septembre, octobre et novembre. L'équipe du Forum sur l'investissement en Afrique de la Banque africaine de développement avait présenté en avant-première plusieurs opérations susceptibles d'être réalisées dans les salles de réunion lors de tables rondes d'investisseurs organisées virtuellement en septembre, octobre et novembre. Les journées du marché 2021 devraient présenter ces investissements. L'un d'eux est un investissement potentiel dans la construction d'une usine de production de vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé en Afrique de l'Est pour un montant de 45 millions de dollars. L'usine sera capable de produire trois types de vaccins de manière routinière, dont un pour la COVID-19. Une autre opération prévue dans le secteur de l'agro-industrie concerne le développement d'une entreprise de production et de conditionnement de lait en Afrique australe. Les promoteurs du projet ont conclu un contrat de vente de la production de lait avec une grande entreprise internationale du secteur de l'alimentation et des boissons. L'opération évaluée à 50,2 millions de dollars présente une valeur stratégique pour le gouvernement hôte en matière de création d'emplois et de développement des compétences. Il faut rappeler que la Banque africaine de développement a lancé le Forum sur l'investissement en Afrique en 2018 avec 7 autres partenaires fondateurs, à savoir l'Africa 50, la Société financière africaine, la Banque africaine d'import-export, la Banque de développement de l'Afrique australe, la Banque de commerce et de développement, la Banque européenne d'investissement et la Banque islamique de développement. Le Forum sur l'investissement en Afrique compte 118 transactions dans son pipeline provenant des 8 membres fondateurs pour une valeur d'investissement de plus de 110 milliards de dollars.
Christian Kombé présente la rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux.
Ouvrons notre rubrique au Bahreïn, où une cathédrale sera consacrée le vendredi 10 décembre 2021. Placée sous le patronage de Notre-Dame d'Arabie, elle sera l'une des principales églises catholiques dans la péninsule arabique et le siège du vicariat apostolique d'Arabie du Nord. L'inauguration et la consécration de ce lieu de culte constituent l'aboutissement d'un long parcours et l'accomplissement du rêve missionnaire de Mgr Camille Obaline, ancien vicaire apostolique d'Arabie du Nord, qui a tiré sa révérence le 12 avril 2020 après une vie de missionnaire et d'évêque au service des communautés chrétiennes présentes dans les pays arabes à majorité musulmane. Le 19 mai 2014, lors de sa visite au pape François au Vatican, le roi Ahmad bin Issa avait lui-même offert au souverain pontife une maquette en plastique de la cathédrale en construction. Tout récemment, le souverain avait officiellement invité le pape François à visiter le Bahreïn, où vivent environ 80 000 catholiques. Dans ce message remis au Saint-Père par le Cheikh Khalid bin Ahmed bin Mohamed Al-Khalifa, conseiller de Sa Majesté pour les affaires diplomatiques, le roi Ahmad avait notamment exprimé son appréciation du rôle fondamental et prépondérant joué par le pape François dans l'établissement et la promotion du dialogue interreligieux et de la compréhension entre les différentes cultures et civilisations, ainsi que dans la diffusion des valeurs de fraternité humaine et de coexistence entre tous. La cathédrale Notre-Dame d'Arabie sera consacrée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Au Maroc, le monastère cistercien Notre-Dame de l'Atlas s'érige en pont de dialogue interreligieux. Ce lieu est témoin de la cohabitation entre chrétiens et musulmans, mais il incarne aussi la mémoire du massacre de Tibirine en Algérie. Le dernier moine survivant du drame de 1996, le frère Jean-Pierre Schumacher, s'est paisiblement éteint là dimanche 21 novembre à 97 ans. Perché sur une colline à la bordure de la ville de Midelt, avec en toile de fond la couronne enneigée du mont Ayashi à plus de 3750 mètres, le prieureux de Notre-Dame de l'Atlas a été érigé dans les années 1920 par de sœurs franciscaines avant que des cisterciens trappistes ne les rejoignent en l'an 2000 dans les deux seuls rescapés de Tibirine, Jean-Pierre Schumacher et Amédée Nothô. Ce lieu d'accueil, de communion et d'ouverture à l'autre contribue à nourrir la complicité entre chrétiens et musulmans dans la région, ainsi que le témoignent les voisins du monastère. Le Bridge Builder Award a reconnu les artisans de paix interreligieux le 22 novembre dernier à Oslo pour l'importance de leur travail qui porte haut les valeurs de respect, d'amour et de tolérance mutuelle. Le Conseil œcuménique des Églises, COE, a reçu la récompense du Bridge Builder Award 2021 aux côtés de Mohamed bin Abdulkarim Alissa de la Ligue islamique mondiale et du grand rabbin Michael Melchior de la Religious Peace Initiative. La récompense a été remise par le jury du Comité de Norvège du 14 août et le Centre d'Oslo. Dans son discours liminaire, le président du comité de Norvège du 14 août à Oslo, Amir Javed Sheik, a déclaré qu'il ne s'agit pas d'une lutte entre juifs et chrétiens, entre chrétiens et musulmans ou entre musulmans et juifs. Il s'agit plutôt d'une lutte entre les personnes aspirant à unir leurs forces et jeter des ponts et celles qui sèment la division et la haine. Il nous revient de lutter pour un monde qui vous voit tel que vous êtes et non pas uniquement en fonction du Dieu que vous priez, a-t-il confié. À la réception du Bridge Builder Award, le père Johan Sauka, secrétaire général intérimaire du Conseil œcuménique des Églises, est revenu sur l'approche du COE de l'établissement de la paix entre les religions, soulignant que les plus grands défis du monde ont presque tous une dimension interreligieuse. Qu'il s'agisse des affaires internationales, de l'environnement, de la justice économique mondiale, des droits des femmes et des enfants, du racisme, des besoins des personnes réfugiées ou surtout de la mission d'éducation théologique dans l'Église, dans ces aspects de notre travail, comme dans les autres, nous nous efforçons de tenir compte des réalités interreligieuses contemporaines, a-t-il précisé. Le père Yohann a en outre exprimé sa profonde appréciation à Mohamed bin Abdulkarim Al-Issa de la Ligue islamique mondiale et au grand rabbin Michael Melchior de la Religious Peace Initiative, également lauréat du Bridge Builder Award. Dans son discours de clôture, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a félicité les lauréats du Bridge Builder Award. La COVID-19 a révélé à quel point il est important que la communauté mondiale œuvre de concert pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle, a-t-il souligné.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.